Bonjour, je m'appelle Guillaume Clessen. Je suis metteur en scène et ancien professeur de philosophie en terminale. Je travaille en ce moment à un spectacle intitulé « Suis-je bête ?» que nous jouerons pour la première fois chez vous. Avec la compagnie des Attentifs que je dirige, nous sommes en résidence artistique au lycée Schumann pour enrichir notre future création qui porte sur l'opposition entre intelligence et bêtise. La semaine du 20 novembre 2023, j'ai séjourné dans votre établissement pour interviewer, sur la base du volontariat, un certain nombre d'élèves et de professeurs sur mathématiques. J'ai participé aussi à quelques cours en collaboration avec les enseignantes et les enseignants de différentes disciplines. Toutes ces rencontres ont été pour moi d'une grande qualité. Elles ont d'ailleurs en grande partie réorienté mon projet de création qui place désormais au centre ces différents témoignages. Pour rendre compte et garder la mémoire de ces très beaux échanges que j'ai eus durant cette semaine à Haguenau, j'ai voulu réaliser un petit podcast pour le lycée Schumann. Même si toutes les personnes que j'ai interviewées ne sont pas présentes dans ce montage sonore, je tiens à remercier tout le monde pour sa contribution. Je remercie également la délégation académique à l'action culturelle, la DRAC, ainsi que la direction et l'administration du lycée qui ont permis à cette résidence de se faire. Enfin, toute ma reconnaissance aussi à Samuel Mazzotti qui a fait le montage de ce que vous allez entendre. Le podcast qui suit pourrait s'intituler « Les intelligences de l'école ». Bonne écoute à vous.
Ok, and if you have any questions for him, say so. Ok,
du coup, le titre c'est « Space » dans le lycée. Et du coup, la personne c'est un astronaute qui est dans l'espace et ça se déroule pendant l'année 1963. C'est le computer, l'ordinateur 3000 qui a eu des erreurs et qui ont essayé de le réparer pour réussir leur mission spatiale.
Ok, est-ce qu'on pourrait dire peut-être par rapport à l'intelligence, qui est intelligent dans ce domaine-là?
C'est l'astronaute qui est intelligent pour pouvoir régler le problème de l'ordinateur.
Mm-hmm. D'accord, il fait marre d'intelligence parce qu'il arrive à, déconnecter entièrement, enfin, vous avez compris?
Oui, il arrive à déconnecter.
Okay. Vous pouvez juste me rajouter quelque chose par rapport à l'ordinateur lui-même, comment il réagit? Soit William, soit quelqu'un du groupe.
Du coup, la scène c'est Forrest Gump qui a un arrêt de bus et elle parle à une dame, sauf que la dame elle dit. Non, c'est Forrest Gump qui parle à une dame. Mais elle dit du vin. Et elle parle avec du chocolat dans la bouche. Il répète beaucoup ce que sa mère disait à lui. Et du coup, on dirait que c'est ça qu'il n'est pas très intelligent. Yes,
nous, on a une vidéo qui s'intitule « Of Mice and Men ». Pour le contexte, il y a deux hommes qui sont sûrement deux amis. C'est sûrement dans les années 2000. Et on est dans un... un arrière-fond un peu western, si je peux dire. Et il y a deux hommes, un qui s'appelle Lenny. Lenny, on apprend qu'il avait une souris morte dans sa poche. Et du coup, son ami George, il va lui dire de l'enlever. Et en fait, il va prendre la souris, il va la jeter. Et face à cette action, du coup, il y a Lenny qui va pleurer. Et George, il va se foutre de lui. Et il va dire « Tu pleures comme un bébé ». Et voilà. Et du coup, nous, on pense que le plus intelligent des deux, ce serait George. Parce que George, il a compris qu'il ne faut pas garder une souris morte dans sa poche. Et du coup, il a aidé Lenny en enlevant la souris. Et Lenny, on va dire que c'est le plus bête des deux parce que il garde une souris morte dans sa poche et qu'il est assez naïf. Voilà.
C'est que je suis suis assez d'accord avec ce que vous dites, dans le sens où je trouve que l'école empêche un peu justement donc, l'intelligence, que ce soit relationnelle ou alors émotionnelle, j'ai envie de dire, de se développer, parce que déjà pour ce qui est des relations en cours, c'est très compliqué de les développer. C'est-à-dire que on passe des heures assis à une chaise à devoir écouter un professeur. Ouais. On a 15 minutes et une heure entre midi et deux pour développer nos relations, ce qui est très peu. C'est vraiment, c'est pas assez pour découvrir quelqu'un. Et bah, émotionnel, c'est un peu aussi le même principe. Comme dit, quand on est en classe, on est censé rester droit, rester attentif. Donc, c'est... On a moins cette possibilité de pouvoir s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent, ce genre de choses. Et donc on le développe plus avec plus de difficultés.
Il vaut mieux que je parle. Je crains toujours que mon air ridicule ne compromette ma pensée et ne discrédite l'idée principale. Je n'ai pas le geste heureux. Les gestes que je fais sont toujours à contre-temps, ce qui provoque les rires et avilit l'idée. Il me manque aussi le sentiment de la mesure, et ceci est grave, c'est même le plus grave. Je sais que le mieux que je puisse faire, c'est de rester coi et de me taire. Quand je me tiens tranquille et garde le silence, je parais même très raisonnable, et j'ai en outre le loisir de réfléchir. Mais maintenant, mieux vaut que je parle. Vous me regardez avec tant de bienveillance que je m'y suis décidé. Il y a tant de charme dans vos traits.
Particulièrement intelligente, non. Non, pas vraiment. En fait, je me suis jamais sentie vraiment supérieure aux autres. A contrario, par contre, si.
Il n'y a pas des moments où tu te sens intelligente?
Des moments, ben, je dirais quand je suis seule, quand j'apprends des trucs. Mais jamais quand je suis à plusieurs avec d'autres gens. En fait, je me sens bête parce que je ne me suis jamais vraiment sentie comprise. Alors du coup, bah, les gens m'ont souvent qualifiée de bête parce que j'arrivais pas à me faire comprendre.
Je suis quelqu'un qui est quand même assez peu confiance en moi. Et du coup, ça fait que le moment où je vais me sentir mieux, c'est beaucoup par les notes. Avoir une bonne note, ça va me faire me sentir un peu mieux. Et au contraire, du coup, avoir une mauvaise note, c'est totalement l'effet inverse, du coup. Les gens qui nous voient d'extérieur, ou même bah, les professeurs, hier, ce qu'on disait en cours, c'est qu'une prof nous a quand même dit comme quoi on était l'élite. Ou alors, quand on va avoir des moins bonnes notes, c'est... Et ça, c'est quelque chose que... C'est une phrase qu'on nous a sortie, genre, il y a deux semaines. Mais c'est une phrase qui me marque, et c'est une remarque qui, moi, me... Pas qui me touche beaucoup, mais... que je trouve vraiment qui peut faire mal, c'est le « je suis déçu ». On nous l'a vraiment sorti il y a très peu. « Je suis déçu, vous vous investissez pas assez, je suis déçu ». Et ça, je trouve que ça fait vraiment... C'est un peu « on se prend un mur », quoi. C'est « je suis déçu », mais on est humain, enfin, déçu de quoi ? On n'a rien promis, on peut se tromper, on peut faire moins bien.
Je voulais juste, c'était pour rebondir sur ce que vous aviez dit. On disait que dans les années 50, vous n'étiez pas très intelligent à 12 ans et du coup on vous envoyait à l'usine. Mmh. Je trouve que ça n'a pas non plus énormément changé. Enfin, comme vous le disiez avant, t'as 18 de moyenne en 3ème, non, tu vas pas faire boulanger.
Oui.
J'ai une amie, elle avait des super bonnes notes, elle a eu un brevet excellent et elle voulait faire, elle voulait être CAP chaudronnerie. Et moi, mes parents, je lui ai dit. Enfin, je lui ai dit à mes parents, Juliette, elle va faire CAP chaudronnerie. Et mes parents, la première remarque, bah, elle a des bonnes notes, Juliette. Enfin, je comprends pas. Et du coup, c'est encore ancré dans le cerveau de tout le monde, en fait. Si t'es, genre, brillant, bah, tu vas pas en CAP. Et je trouve ça trop dommage, parce qu'elle s'éclate dans ce qu'elle fait. Et c'est ça le plus important. Donc,
Tout le monde me considère comme un idiot. Je ne sais pourquoi. J'ai été si malade, il est vrai, que cela m'a donné l'air d'un idiot. Mais suis-je un idiot, à présent que je comprends moi-même qu'on me tient pour un idiot ? Quand j'entre quelque part, je pense « Oui, ils me prennent pour un idiot. Et pourtant, j'ai mon intelligence. Et ces gens-là ne s'en doutent pas. »
Il y avait des discours comme ça, mais c'est pas il est bête, c'est qu'est-ce qu'il dit con, qu'est-ce qu'ils sont cons. J'ai une classe et que des cons. J'ai pas trop de... Je sais pas, j'ai pas... Voilà, je... En général, je pars quand je vois ça, j'ai même pas envie de discuter. Je me dis qu'on est tous le con de quelqu'un, de toute façon... Et je trouve que ça doit être un métier qui, quand on arrive à avoir ces propos-là, doit être franchement lourd. Hein. Tu dois pas t'épanouir, quoi, dans ton... Alors moi aussi, parfois, j'ai des... Je dis pas que ça m'arrive pas de dire... Ou quand je lis, surtout, c'est quand j'ai des copies où je dis, non, franchement, ils ont pas le droit de dire ça, ou... Mais en tout cas, je mets... Non, je mets... Enfin, je pense pas mettre ça sur le compte de la bêtise. Tu vois, sur... J'ai l'impression que la bêtise, ça serait un truc qui viendrait presque définir la personne. Être bête, c'est l'expression que tu disais, c'est-à-dire être bête. Tu vois, on peut dire des choses bêtes. On peut dire des bêtises, parfois, on en dit tous. Hein, même en pensant dire des choses intelligentes, d'ailleurs. Mais ça fait, c'est pas parce que tu dis une fois une bêtise que tu es, j'ai envie de dire, fondamentalement bête. Et qu'on a tous le droit, d'ailleurs, d'être parfois bête. C'est bien d'être bête aussi. Et il y en a un qui m'a fait... Est-ce que la bêtise est un vice? Je lui dis, oui, c'est considéré comme tel. Mais je veux dire, tu sais, il y a plein d'expressions qui montrent que peut-être la bêtise, c'est un bien, tu vois, être imbécile heureux. Et d'ailleurs, ça peut être attendrissant, un élève qui dit aussi une bêtise, qui dit un truc, qui... La naïveté, comme ça, la crédulité, c'est même parfois un peu poétique. Je trouve qu'il y a une poésie comme ça...
Surtout que, pour revenir, cette histoire de comparaison, c'est vraiment un problème parce que moi, je pense que pour acquérir du savoir, justement, l'intelligence relationnelle, elle est importante. C'est par les relations, les gens à qui on parle, qu'on acquiert du savoir. Je vais reprendre l'exemple du théâtre, par exemple, mais l'année dernière, on a fait donc une pièce avec plein de morceaux, etc. Et c'était à partir d'idées qu'on avait, ce genre de choses. Je veux dire... Par exemple, j'ai proposé Ionesco, il n'y avait pas forcément tout le monde qui connaissait. C'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est par le savoir des autres. Et avec cette compétition, ça fait qu'on se ferme des autres et qu'on n'apprend rien, justement.
que je peux rebondir direct, enfin juste comme ça. Non mais Ray, c'est pour dire que je suis complètement d'accord et que malheureusement souvent, en fait, c'est au final le meilleur apprentissage, c'est pas des fois d'élève en élève en fait. Mmh. C'est d'aller chez des personnes qui comprennent et leur demander est-ce qu'on peut m'aider, est-ce qu'on va comprendre. Et nous en retour on va faire de même avec des matières où ils ont du mal. Et c'est le meilleur moyen de l'apprentissage.
C'est pour ça qu'on a mis en place le tutorat au lycée.
Ah oui,
on va commencer, on fait la réunion la première la semaine prochaine, on a mis en place le tutorat.
C'est super ça.
Voilà, un robot qui a un buste, une tête, deux yeux, c'est bien, mais lui rajouter un nez, une bouche, des oreilles ou toutes sortes de caractéristiques humaines, eh bien ça peut être parfois contre-productif en termes d'acceptation sociale. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une équipe de chercheurs en sciences cognitives du CNRS de Lille. Alors pourquoi cette réaction de rejet? En fait, nous expliquent ces chercheurs qui ont testé l'acceptation de différents profils de robots auprès d'un panel représentatif. En fait, plus un robot possède des caractéristiques ou des compétences proches des nôtres, plus il suscite des réflexes de défiance, car l'être humain a tendance spontanément à se comparer à la machine et en général à se sentir supérieur à elle, d'où de possibles réactions de mépris ou de rejet.
Du coup, à quoi devrait ressembler un robot idéalement pour être bien accepté socialement?
Eh bien, il faut qu'il ait certains traits physiques qui nous ressemblent, par exemple de grands yeux sur un visage déclenche de l'attachement, mais ensuite, expliquent ces chercheurs, il vaut mieux qu'un robot avance sur roulette sur un seul pied plutôt que sur deux jambes, ou alors il vaut mieux qu'il ait des pinces ou des aimants à la place des mains plutôt que 5 doigts, car lorsque les robots sont dotés de fonctions impossibles à réaliser pour nous les humains, comme rouler, s'envoler et monter des objets, l'homme n'a plus du tout envie de se comparer et d'établir une logique de domination.
Mais il y a vraiment un risque de rejet ou de maltraitance des robots par les humains?
Mais oui, des cas d'agression de robots ont déjà été constatés au Japon et aux États-Unis, expliquent ces chercheurs, ce qui ne va pas dans le sens d'une société apaisée, puisque ces machines évidemment prennent une place grandissante. Robots livreurs de colis, robots d'accueil dans les gares, robots compagnons dans les maisons de retraite. Le fait que ces machines ne suscitent pas d'agressivité ou de stress est un élément essentiel, surtout si finalement c'est une question de design. Pour les années qui viennent, les bureaux d'études ont calculé que ce marché des robots sociaux devrait connaître une croissance de 15% par an. I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect. Peut-être qu'il y aurait un usage intéressant, c'est-à-dire que ça pourrait peut-être faire progresser les élèves. De passer par ChatGPT, par exemple, pour ensuite produire autre chose, d'intégrer, hein, donc d'instrumentaliser finalement l'outil. Mais ça, je ne le fais pas pour l'instant, parce que mes connaissances de l'outil, parce que pas encore assez réfléchi. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas encore de position sur ce dispositif. Donc, tout ce que je n'ai pas assez... Tout ce que je ne me suis pas assez approprié et surtout parce que je n'ai pas réfléchi vraiment aux enjeux, aux éventuels dangers ou avantages. Voilà, sans doute je serai amenée à me poser la question et puis on verra ce que j'en ferai à ce moment-là. Mais là, non, j'ai botté en touche. Je continue à fonctionner de la même manière.
Les intelligences artificielles, ça peut être super intéressant dans certains domaines, mais dans le domaine de l'apprentissage, je pense que c'est vraiment c'est se mettre des bâtons dans les roues que d'utiliser ça, parce que je pense que si en fait utiliser à chaque fois les intelligences, enfin, c'est tout bête, mais ChatGPT, je veux dire, maintenant, si je sais pas moi, si on a un devoir à faire et que flemme, moi, ChatGPT, bah, je trouve ça... Will you stop, Dave? En fait, j'ai l'impression qu'on n'apprendra jamais à apprendre. On n'apprendra jamais à travailler, parce que c'est juste la facilité. Et du coup, on n'a plus du tout ce truc de « bon, bah, il faut travailler, il faut apprendre ». Sauf que le problème, c'est que bah, pour moi, dans la vie, on nous faudra forcément apprendre à des moments et on n'aura pas toujours ChatGPT pour nous aider. Enfin, quand on aura un travail plus tard... ça nous rend un peu plus, enfin un peu fainéant, j'ai l'impression, de se dire de toute façon j'ai pas besoin de le faire, c'est bon, là-dessus j'ai pas à me faire chier à faire un truc alors que je peux le faire beaucoup plus simplement. Et du coup, bah, ouais, en plus, c'est un travail qui sera pas du tout, enfin, ça reflètera pas du tout notre personne ou. Enfin. My mind is going.
Bah, ça serait un peu comme une extension de leur cerveau qui n'interagirait pas avec leur cerveau. Par exemple, c'est ils l'utilisent, mais ça ne leur apporte aucun bienfait. C'est juste ça travaille à ma place et donc du coup, j'ai pas besoin de le faire. Bah, ça, c'est surtout que ça lui permet de moins travailler et du coup. Ça lui donne une réponse sur laquelle il peut se référer et donc du coup qui fait presque du copier-coller.
En début d'année, on avait fait un cours sur la photosynthèse et quand on faisait le cours, il y avait une notion que j'avais pas très bien compris et je voyais les autres autour de moi qui comprenaient et qui avaient l'air au taquet et d'être avec ça. Donc je disais bon, je vais pas lever la main, je vais pas poser une question bête ou quoi que ce soit. Je regarderai chez moi plus tard, soit des vidéos, soit j'utiliserai l'IA justement pour qu'elle m'explique. L'IA, en vrai, il faut le voir comme un prêt particulier qui peut nous ramener des connaissances, mais pas comme un élève à part entière qui fait le travail à votre place.
Donc moi, la seule défense que j'ai, le seul moyen que j'ai trouvé, et je l'ai dit en tout début d'année, et aux élèves et aux parents d'élèves que j'ai rencontrés, quand, je sais pas, au bout de deux semaines, je lui ai dit voilà, on va perdre peut-être plus de temps, mais tout ce que vous ferez, c'est vous qui l'aurez fait. Parce que j'ai pas envie de perdre du temps à savoir, à faire des recherches, à devenir flic pour savoir qui a fait son travail, qui a eu recours à ça. Voilà, moi j'ai pas les outils maintenant, et je l'avoue humblement, pour savoir comment composer avec ça, comment l'utiliser intelligemment dans la matière qui est la mienne, et la mettre au service de l'apprentissage de mes élèves. Donc ma réaction, c'est une réaction de défense un peu hermétique. J'ai dit voilà, mais tous les devoirs que je corrigerai automatiquement, vous pouvez faire des travaux à la maison. Des travaux à la maison, je corrigerai pas. Voilà, on en parlera en classe. Mais tout ce qui sera évalué sera fait en classe. Voilà. Donc, je sais que c'est probablement pas la bonne réponse, mais c'est la. Et en plus, on n'est pas aidé hein, par l'institution. On n'est pas aidé par. On ne nous dit pas comment composer avec ça, comment faire, comment l'utiliser intelligemment, comment faire prendre conscience aux élèves que c'est en même temps magnifique et que ça peut être inquiétant. Et donc, nous, on est un peu livrés à nous-mêmes avec un truc qui, et dont les élèves, probablement, ils savent mieux l'utiliser que nous. Enfin, ils savent mieux l'utiliser que nous. En disant ça, je me... Techniquement, ils savent mieux l'utiliser que nous, mais ils l'utilisent bêtement. Et là, par contre, tu vois, je le dis à dessein, ils l'utilisent bêtement parce qu'ils en font un usage aveugle. Et que ça serait bien qu'on puisse en faire un usage éclairé, justement, en montrant ses limites et tout ça, mais quand? Donc ça serait presque une nouvelle matière, tu vois, à inventer.
C'était ma prof de français l'année dernière. Je la trouve incroyable. Elle est géniale et je garde le contact, on discute encore. Elle est incroyable dans tous les sens du terme. Elle fait prof de français, latin et grec et prof de théâtre aussi. Elle est exceptionnelle. Elle est partout et ses cours sont incroyables. Et puis elle a des bonnes qualités. Elle est gentille, altruiste. Dans tout le bon sens du terme.
Ces cours, pourquoi ils sont incroyables pour toi, ces cours?
Il n'y avait pas vraiment une barrière entre elle et ses élèves. Elle nous parlait franchement, comme si on se connaissait un petit peu. Et puis, elle y allait franco. Elle ne se cachait pas derrière un mur. On pouvait plaisanter en classe. C'était toujours des sujets intéressants qu'elle nous donnait à étudier. Quand on avait des livres à lire, c'était des livres souvent du 21e siècle. Et elle nous laissait le choix, le temps aussi. Elle était très compréhensible. Et elle faisait différents niveaux d'évaluation aussi pour aider les élèves. Elle était toujours là pour eux, pour les aider. Voilà.
Gardons-nous de sous-estimer la seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir et qui date de la nuit des temps pédagogiques. La solitude et la honte de l'élève qui ne comprend pas, perdu dans un monde où tous les autres comprennent. Nous seuls pouvons le sortir de cette prison-là, que nous soyons ou non formés pour cela. Les professeurs qui m'ont sauvé, et qui ont fait de moi un professeur, n'étaient pas formés pour ça. Ils ne se sont pas préoccupés des origines de mon infirmité scolaire. Ils n'ont pas perdu de temps à en chercher les causes, et pas davantage à me sermonner. Ils étaient des adultes confrontés à des adolescents en péril. Ils se sont dit qu'il y avait urgence. Ils ont plongé. Ils m'ont raté. Ils ont plongé de nouveau. Jour après jour, encore et encore, ils ont fini par me sortir de là. Et beaucoup d'autres avec moi. Ils nous ont littéralement repêchés. Nous leur devons la vie.
On en revient bien sûr à l'adaptation aux différents élèves qu'on a en classe. Mais sans doute aussi... Et ce qui est finalement pour moi un peu la définition la plus globale de l'intelligence, une forme de créativité en fait. Parce que enseigner, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, si c'est juste transmettre des savoirs, tout le monde s'ennuie. Parce que les savoirs sont déjà constitués et qu'il suffirait de les faire absorber aux élèves. Et dans ce cas-là, ils vont en retenir 10%, ce qui est souvent le cas de toute façon. Mais il n'y aura pas... Ce qui m'intéresse dans l'enseignement, c'est quand même de stimuler leur réflexion et de les ouvrir, pas seulement au programme scolaire, mais à travers le programme scolaire, de les ouvrir à leur rapport au monde. Enfin, ça, c'est de la philo de toute façon. C'est parce que j'enseigne la philo, sans doute. Mais du coup, ça supposerait qu'on essaie d'inventer un cours. Il n'est jamais le même. Même le canevas que tu as prévu dans ta préparation, pour moi, l'intelligence de l'enseignement, c'est en être l'auteur de ton cours, donc l'inventer par rapport aux circonstances données, qui sont les élèves, mais aussi ton humeur, ton énergie, la forme que tu tiens ce jour-là... Il y a plein d'éléments, plein de paramètres qui vont entrer en compte, et ce qui fait que tu fais preuve d'intelligence, entre guillemets, pédagogique ou didactique, dès lors que, avec les ingrédients que tu as ce jour-là, tu inventes une manière de faire passer ce que tu as à leur dire. Que ce soit un contenu de savoir, que ce soit une démarche, alors pour la philosophie du questionnement, que ce soit... une méthode d'analyse, une méthode de calcul. Bon, en philo, on ne calcule pas, mais pour moi, c'est ça. C'est le chemin que tu vas prendre. C'est vraiment inventer un chemin, donc une intelligence plutôt créatrice.
Le ressenti, déjà quand ils arrivent en cours, en EPS, hein, je suis soucieuse de voir comment ils se sentent. Est-ce que c'est un jour où ils ont correctement dormi dans la nuit? Est-ce qu'ils se sentent bien? Pas de douleur, hein, Et à partir de ce moment-là, effectivement, moi, je leur propose un contenu, mais je tiens compte de comment ils se sentent pour leur demander, l'exiger d'eux, une certaine efficacité. L'élève qui vient et qui me dit qu'il se sent pas très bien parce qu'il a mal dormi, parce qu'il a mal mangé ou quoi que ce soit, ben je le prends en considération et mes exigences, elles s'adaptent. En général, quand ils ont un bon ressenti, moi, je le perçois et je le sens dans l'évolution de ma séance. Quand les élèves se sont sentis, en fait, en accord avec ce que je leur demandais, quand ils ont senti qu'ils pouvaient maîtriser le mouvement, qu'ils pouvaient progresser dans le mouvement, en fait, je le sens, il y a un bien-être qui s'installe chez l'élève. Et ça, effectivement, je le ressens. Après, je leur pose aussi souvent la question, comment vous êtes sentis? Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous avez eu des bonnes sensations? Mais souvent, ça participe en fait au déroulement et à l'ambiance de la séance, je trouve. Ben parce que moi, je joue avec beaucoup, quand même, avec le corps. Et le corps, ça passe par être bien dans son corps, en fait. Donc pour moi, un élève, même s'il est doué dans une activité que je vais lui proposer, s'il n'est pas bien, s'il ne se sent pas bien, il ne va pas être efficace. Pour moi, ça passe vraiment par être bien dans son corps. Et être bien dans son corps, c'est ce que les élèves ont expliqué, c'est la confiance en soi. Et quand on fait de l'activité physique, il faut avoir confiance en soi. Un athlète de haut niveau qui n'est pas bien dans son corps, il est, pour moi, il est à risque de blessure à 80%. Parce qu'il n'aura pas les mêmes appuis, il n'aura pas les mêmes sensations. Après, il y a des professeurs qui nous disent aussi qu'il y a beaucoup de non-participation, par exemple orale, dans certains cours. Moi, si l'élève se braque, se bloque ou n'y arrive pas, c'est le corps qui parle. Et donc, c'est très visible. Et pour moi, débloquer le corps, c'est débloquer l'esprit. Ça, c'est indéniable. C'est pas deux choses séparées pour moi.
Thank you.